слава Него.
Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Bonjour. Cette émission, qui va être pour partie en ukrainien, pour partie en français, s'adresse aux nombreux Ukrainiens de Genève, aux Ukrainiens réfugiés et aux amis de l'Ukraine. Restez avec nous sur 92.2 FM. Vous allez découvrir un pays qui se bat pour rester en démocratie. Un pays magnifique qui se relèvera après la guerre. Un pays dont la population est admirable. Restez avec nous, s'il vous plaît, sur Radio Cité Genève 92.2 FM. Cette émission vous est proposée par Christine Avrilichine, à qui je passe la parole. Bonjour Christine.
Bonjour, nous sommes en présence de Serge Michel. Serge Michel qui est le fondateur et rédacteur en chef de ID News et de Geneva Solutions qui a développé un nouveau concept qui s'appelle Ukrainian Stories, dont on parlera, ainsi que rédacteur en chef adjoint du Temps. Bonjour Serge.
Bonjour.
Доброго дня. Сьогодні у нас в гостях Серж Мішель, засновник, редактор Heidi News та Geneva Solutions, який розпочав нову концепцію Ukrainian Stories, та головний редактор Le Temps.
Serge Michel, quelles sont vos vues sur la guerre en Ukraine, ses enjeux géopolitiques et comment est-ce que vos vues ont évolué au cours du temps?
Bah écoutez, d'abord, je dois dire que je suis extrêmement marqué par cette guerre. Je suis hanté par ce qui se passe. Par exemple, quand je circule en Suisse et que je vois des villages, tout d'un coup, je me dis, mais tiens, ce village pourrait être un village ou une ville ukrainienne attaquée par les Russes, et je commence à avoir des images comme ça. Donc, je suis très perturbé par ce qui se passe. Et puis, je dois dire que c'est une guerre d'une violence inouïe en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le seul parallèle que je vois, c'est, j'ai habité en Iran pendant 4 ans, et c'est cette guerre Iran-Irak qui a duré dans les années 80, qui a été aussi terrible, qui se déroulait entre deux armées frontalement comme ça, mais qui n'avait pas au milieu de ces deux armées des populations civiles.
Які ваші погляди на війну в Україні? Які ви бачите геополітичні проблеми? Як вони розвивалися з часом? Я дуже схвильований тим, що відбувається, і кожного разу, коли я проїжджаю швейцарські села, я уявляю, що вони могли б бути на місці українських сіл, окуповані російськими солдатами. І це дуже жахливо. Я хочу сказати, що ця війна – це небачена жорстокість часів Другої світової війни. Я жив в Ірані 4 роки, і єдина паралель, яку я можу провести – це війна між Іраком та Іраном, яка відбувалась у 80-х роках. Але це не була війна між солдатами та мирним населенням.
Alors vous faites un parallèle avec la guerre en Irak. Est-ce qu'une des différences, et je m'adresse aux journalistes ici, c'est le fait que on a des moyens maintenant, les téléphones portables, les médias sur place, une grande présence journalistique. Est-ce que ça fait pas une différence?
Alors bien sûr que ça fait une différence, mais on ne voit pas tout non plus. C'est-à-dire que on voit des images, on voit beaucoup d'images arriver, certaines sont même difficiles à regarder, très 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 dures, mais et donc on a des témoignages au fur et à mesure d'événements, à la fois de civils et de militaires qui se filment aussi ou qui filment ce qui se passe. Maintenant, je peux pas dire qu'on voit tout et sans doute heureusement quoi.
Ви проводите паралель між війною в Іраку і скажіть, будь ласка, чи створює різницю той факт, що на сьогоднішній момент у нас є постійна присутність журналістів, засоби масової інформації, засоби зв'язку, мобільні телефони? Так, звісно, завдяки засобам масової інформації ми можемо бути в курсі всіх подій, які відбуваються в зоні бойових дій. Ми бачимо багато картин, які достатньо важко дивитися. У нас є свідчення як цивільних, так і військових, які фільмують усе, що відбувається зараз.
Et qu'en est-il des journalistes? On entend que beaucoup de journalistes ukrainiens ont été tués, un journaliste français récemment a été tué. Quelle est la situation de la presse pendant ce conflit?
Alors, il est évident que les journalistes sont des cibles. Dans cette poussée de l'armée russe, il y a la volonté de pas que leurs actes, leurs crimes ne soient pas documentés. Et donc, il est évident que les journalistes ont été des cibles depuis le début. On a vu, dès les premiers jours de la guerre, des tours de télévision, de radio se faire bombarder. La circulation de l'information, c'est tout ce que ne souhaite pas l'armée russe dans ce cas-là. On a vu l'impact des images de Boutcha Et donc on voit bien que le travail des journalistes dérange ce projet d'invasion russe. Après, dans les journalistes ukrainiens que je connaissais, d'abord je voudrais souligner qu'il y avait une très grande qualité de journalisme en Ukraine avant la guerre. J'en ai été témoin en 2014, au moment de la révolution de Maïdan. J'avais vu des journalistes ukrainiens qui faisaient des enquêtes assez extraordinaires sur les schémas de corruption du régime Yanukovych, qui avaient exposé des oligarques qui coopéraient avec le pouvoir, qui avaient reconstitué des schémas d'exportation illégale d'armes, notamment en direction de la Syrie, à l'époque Yanukovych. Et donc j'étais assez convaincu qu'il y avait une grande qualité. Et cette qualité, elle est à la fois dans le fait qu'il y avait des grands journaux à Kiev, des grandes rédactions, et un ensemble de médias locaux dans des petites villes, des télévisions locales, des radios locales, des journaux locaux, etc. Et il y a un vrai écosystème journalistique en Ukraine qui a été bouleversé par cette guerre, parce que les gens ont perdu leur rédaction, leur travail, les antennes pour émettre leurs émissions de radio.
Ми знаємо, що багато українських журналістів загинули під час війни. Нещодавно вбили французького журналіста. Скажіть, яка ситуація преси під час війни? Це очевидно, що журналісти є мішені російської армії, тому що їм не хочеться, аби їхні злочини були задокументовані. Ми бачимо, що в перші дні було нанесено удари по радіо та телестудіям, адже потік інформації – це те, чого найменше хочуть російські солдати, і ми бачимо вплив інформації про події з Бучі. Добре видно, що робота журналістів тривожить російську армію. Але передусім я хотів би відзначити, що українські журналісти володіють надзвичайними якостями. І я помітив це ще до війни у 2014 році під час революції на Майдані, коли журналісти почали розслідувати корупційні шляхи режиму Януковича, проводили розслідування олігархів та незаконного експорту зброї. І сьогодні ми бачимо, що великі медіа-редакції об'єднались з місцевими, і це створює справжню екосистему журналістів в Україні, яка, на жаль, була пошкоджена через російське вторгнення, адже багато людей втратили свою роботу, були зруйновані антени радіозв'язків.
Nous reprendrons notre conversation avec Serge Michel après une pause musicale.
Radio Cité Genève
92.2.
Маю місяць, маю небо, маю твій телефон. Isn't it sun? Я буду довго намагатися тебе знайти. Бо вчав телефон. Wasn't it so? З тобою ми ловили берег, лягали на дно.
Шелера став. Я маю то, De retour sur Radio Cité Genève avec Serge Michel.
Alors justement, parlant de journaliste avec Geneva Solutions, vous avez développé une plateforme sur l'Ukraine, guerre russe en Ukraine.
Voilà. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'au fond, ces journalistes ukrainiens de grande qualité qui ne peuvent plus exercer leur métier là-bas, certains, il reste des médias qui sont intéressants, qui sont importants en Ukraine, mais disons que beaucoup d'autres n'ont plus simplement de job. On a voulu qu'ils puissent raconter la guerre à leur façon, depuis là où ils se trouvent, soit en Ukraine, soit en exil. Et donc, on a lancé un appel et il y a une quarantaine de journalistes ukrainiens qui ont répondu, qui se trouvent un peu dans toutes les villes, à Odessa, à Kiev évidemment, à Lviv, mais aussi à Kherson, et dans des zones occupées. Et donc, à Mykolaïev par exemple, enfin qui n'est pas occupée, mais on a une journaliste qui était dans l'oblast de Luhansk occupée, et donc qui ont raconté la guerre à leur manière et, je dirais, un peu au ras des pâquerettes, c'est-à-dire on leur a demandé de raconter ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, de livrer des témoignages. Et donc, ça, c'est pas des grandes analyses géopolitiques que l'on fait depuis Mykolaïev en disant, etc., ce qui se passe. Par contre, on a un quotidien du conflit qui est très touchant et qui est très complémentaire avec ce que font les journalistes internationaux.
Поговоримо про журналістів Geneva Solutions. Зараз ви розвиваєте платформу про Україну. Розкажіть про це. Як я вже сказав, українські журналісти мають надзвичайні якості, і дуже шкода, що багато з них не можуть зараз продовжувати свою роботу. Безумовно, є медіа, які залишаються на зв'язку, але є багато інших журналістів, які втратили свої посади. І ми б хотіли, щоб вони могли розповідати про війну, незалежно від того, де вони зараз знаходяться, чи то в Україні, чи за її межами. Ми зідзвонились з 40 журналістами, які нам відповіли. Вони знаходяться в Києві, у Львові, в Одесі, Миколаєві, також в Херсоні та на окупованих територіях. І ми попросили розповідати їх про те, що вони бачать чи чують у їхньому власному стилі. Ми не говоримо, що це глибокий політичний аналіз, але нам дуже необхідно мати щоденні свідчення про події у зоні бойових дій, які будуть доповнювати роботу іноземних журналістів.
Et sous quelle forme ils vous envoient ces articles? Est-ce que c'est quotidien, hebdomadaire? Est-ce qu'ils sont payés pour ce travail?
Alors oui, on paye tout le monde. Je pense que c'est important dans un conflit comme ça de pouvoir soutenir la vie des gens du point de vue matériel. Ils travaillent dans des conditions très difficiles. La connexion Internet n'est pas stable, l'électricité n'est pas stable. Ils sont parfois dans des endroits où il y a des bombardements. Donc voilà, c'est pas facile pour eux. On a engagé 3 éditrices, c'est-à-dire éditrices, ce sont des gens qui relisent les textes ukrainiennes, qui étaient en exil, parce que c'est plus facile pour nous de pouvoir travailler avec quelqu'un qui est en Allemagne ou en France.
У якій формі вони надсилають вам свої статті, чи це відбувається щодня, чи їхня робота оплачується? Так, звісно, ми оплачуємо їхню працю, тому що зараз надзвичайно важливо підтримувати життєдіяльність людей, особливо те, що вони працюють у надзвичайно важких умовах, адже інтернет та електрика працюють з перебоями. Деякі журналісти знаходяться у районах, де відбувається бомбардування. Також ми залучили 3 редакторки, які перекладають тексти. Вони знаходяться за кордоном, і нам простіше працювати з людьми в Німеччині або Франції.
Donc on a engagé 3 éditrices ukrainiennes qui sont en exil. C'est plus facile pour nous de travailler avec des gens qui sont en Allemagne ou en France. Et elles sollicitent et reçoivent les textes des journalistes qui sont sur le terrain. Elles les relisent, elles les complètent si nécessaire, elles les traduisent. Et donc on publie sur Geneva Solutions à la fois en ukrainien, en anglais, et puis le temps choisit certains textes et les traduit en français. Donc c'est quand même une grosse équipe de traitement des textes.
Отже, ми залучили 3 редакторів, які отримують тексти, які їх перечитують, а згодом перекладають. Вони знаходяться в Німеччині або Франції, і ми перекладаємо ці тексти, згодом публікуємо їх на Geneva Solutions англійською та українською мовами, і деякі тексти відбирають Лютан і публікують їх французькою. Одним словом, дуже велика команда працює над цим проектом.
Il me semble que vous avez aussi des journalistes russes indépendants.
Oui.
Qui travaillent pour Geneva Solutions.
Disons que ça nous a paru important de donner la parole aussi aux journalistes russes qui sont victimes de cette même guerre, évidemment pas dans les mêmes dimensions. C'est-à-dire que les journalistes ukrainiens ont reçu des bombes sur la tête. Les journalistes russes, eux, sont victimes d'une censure. Ils sont partis aussi parfois en exil. Il y en a beaucoup qui sont en Géorgie ou en Turquie ou dans les pays baltes. Ces journalistes russes, pour moi, bon, c'est tous des opposants au Kremlin. Ce sont des gens qui ont cherché la vérité pendant des années, qui ont souffert, disons, du régime Poutine parce qu'ils ont fait de la prison, parce qu'ils ont été... certains sont morts, hein, il y a eu des journalistes russes assassinés durant toutes ces années. Et pour moi, ils sont victimes du même dictateur. C'est-à-dire que Poutine détruit deux pays à la fois, en fait. Il détruit l'Ukraine physiquement et il détruit la Russie moralement et économiquement.
Ми знаємо, що у вашій команді також працюють незалежні російські журналісти. Чи це правда? Так, я вважаю, що важливо давати слово також і російським журналістам, тому що вони є жертвами подій сьогодення, і деякі з них шукаються притулку в Грузії, Турції або Українах Балтики. Це люди, які протистоять режиму, вони роками шукали правду, вони страждають від політичної діяльності їхнього президента. Деякі загинули, деякі знаходяться у в'язницях. Вони є жертвами того ж диктатора, що і українські журналісти. Я хочу сказати, що Путін знищує Україну фізично, а Росію морально та економічно.
Suite de notre conversation avec Serge Michel après une pause musicale.
Radio Cité Genève 92.2. Дякую!
жовтою рікою. Десь там, де живе світло дискотек, може бібліотек, може вільних ідей. Десь там, де живе світло дискотек, може бібліотек, може вільних ідей. Може все не так, може все не так, може все не так.
De retour sur Radio Cité Genève avec Serge Michel.
Ce que vous dites me fait penser au phénomène, justement, on a beaucoup entendu parler de la propagande russe. Alors, quelle est la situation de la liberté de la presse, que ce soit en Ukraine? Est-ce qu'il y a une liberté de la presse et en Russie?
Ah ben, ça n'a rien à voir, je pense que... En Ukraine, il y avait une liberté de la presse que j'ai constatée déjà dès 2014. Et puis, en Russie, il n'y a pas de liberté de la presse. Il y avait des journaux qui tentaient de faire un travail indépendant et qui étaient sans cesse censurés ou emprisonnés ou persécutés et parfois même assassinés. Donc, je veux dire, voilà. Et aujourd'hui, la liberté de la presse, la petite liberté de presse qui restait en Russie, s'est complètement fermée. Donc, tous les journaux indépendants ont dû fermer boutique ou bien s'exiler. Certains ont réussi à recréer des éditions à l'étranger. On travaille notamment à Ukraine Stories avec un média dont la rédaction s'est déplacée en Géorgie et qui s'appelle Holod. On travaille avec Novaya Gazeta qui s'est exilée dans les pays baltes. Mais il n'y a aucune liberté de la presse en Russie. Je dirais même qu'il y a une telle propagande en Russie qu'au fond, on comprend que ce projet d'invasion est un projet pensée de très long terme, c'est-à-dire que cette propagande, elle n'est pas arrivée en quelques semaines, en quelques mois. Cette propagande, ça fait des années que Poutine prépare la mentalité russe, la population russe à cette guerre.
Так, як ви кажете, те, що відбувається зараз, це зовсім не феномен і відбувається не без допомоги російської пропаганди. Давайте поговоримо про свободу слова, чи є свобода слова в Україні і чи є свобода слова в Росії. В Україні є свобода слова, яку я констатував у 2014 році, в той час, як в Росії журналістів постійно піддають цензурі, переслідуванням або навіть ув'язненням. В незалежних журналістів немає жодного шансу сказати правду. Росія перервала випуски іноземних видань, і ми зараз в Ukrainian Stories працюємо з редактором, який переїхав до Грузії. Він працює у виданні «Нова газета», яка випускається в країнах Балтики. Отже, в Росії дійсно велика проблема зі свободою слова. І ми бачимо, що пропаганда, яка готувалась Путіним, це не подія кількох тижнів чи кількох місяців, це пропаганда, яка створювалась роками.
À ce sujet, il y a eu cette fameuse journaliste qui est apparue sur la télévision russe, on ne sait pas en fait s'ils l'ont vue en Russie, et qui ensuite, quand elle était à l'Ouest, a commencé à s'opposer aux sanctions contre la Russie. Est-ce une journaliste indépendante ou est-ce un instrument de Poutine? On peut imaginer qu'il a envoyé certains journalistes à l'Ouest.
Oui, disons qu'elle, elle a quand même pris le risque de faire ce qu'elle a fait. Après, je ne connais pas ses opinions sur les sanctions. J'ai vu récemment qu'elle voulait changer de nom, qu'elle voulait reprendre son nom ukrainien de sa mère, je crois. Moi, je lui ferais plutôt confiance comme ça, parce que je pense qu'elle a, elle a pris un risque considérable de perturber une des émissions russes les plus regardées. Et je ne pense pas que c'était à l'avantage, disons, du régime que de voir apparaître ce panneau « Non à la guerre » en prime time. Maintenant, ces idées à elle profondes, j'avoue que je ne les connais pas.
Alors, appelez-moi paranoïaque, mais moi j'avais imaginé que, étant donné qu'on sait que rien ne passe en direct sur les télévisions russes, qu'en fait c'est un instrument de la propagande de Poutine, il lui a fait faire ça pour montrer ça à l'Ouest, pour en faire une journaliste indépendante, et ensuite elle devient un instrument d'une propagande anti-sanctions contre la Russie. Est-ce crédible?
Oui, mais enfin, d'abord, je pense qu'il y a du direct en Russie, surtout dans ces télévisions qui sont entièrement contrôlées par le Kremlin. Ils pensaient avoir zéro risque avec ce journal télévisé. D'autre part, et puis on a vu que ça s'est arrêté très vite, donc c'est pas qu'ils lui ont laissé le temps de beaucoup exister derrière la présentatrice. D'autre part, je pense pas que c'est la meilleure. Si ça devait être le cas, c'est pas la meilleure propagande. Je pense que le Kremlin avait des outils très importants de propagande en Occident, notamment Russia Today et Sputnik et ce genre de médias-là. Et aussi, il y a des gens en France, en Suisse, en Allemagne qui sont payés par le Kremlin pour diffuser de la propagande. On en a ici à Genève, il y en a à Paris, etc. Il y a des influenceurs, il y a des YouTubers qui font la pub du Kremlin et qui sont occidentaux.
Що ви думаєте з приводу ситуації, коли російська журналістка з'явилась на телебаченні, а згодом поїхала на Захід та почала підтримувати введення санкцій проти Росії? Це незалежний журналіст чи це путінська пропаганда? Чи можемо ми думати, що Путін спеціально відправляє своїх журналістів на Захід? Насправді, я не знаю її думку з приводу санкцій. Я вважаю, що вона взяла на себе значний ризик, перервавши передачу, яку дивиться найбільша кількість людей, і до того ж сказавши про війну. А як щодо того, що нічого не відбувається в прямому ефірі в Росії? Можливо, це інструмент пропаганди, і вона зробила це, щоб показати Заходу, що в Росії є незалежні журналісти? Я думаю, що так як все телебачення контролюється Кремлем, то саме з цією передачею мало бути б найменше проблем, і Путін сподівався не мати жодного ризику. І так як це швидко припинилось, і у неї не було можливості довго знаходитись за телеведучою, я все ж таки не думаю, що це була саме пропаганда. Навіть якщо це і так, то це не є найкращою пропагандою, адже у Кремля є інструменти значно кращі, такі як краще Today, Sputnik і такі інші видання. Також є журналісти-блогери у Франції, Німеччині, Швейцарії, які фінансуються Путіним для поширення пропаганди.
Les Ukrainiens disent qu'ils se battent naturellement pour leur pays, leur souveraineté, leur culture, mais aussi pour la démocratie, non seulement en Ukraine, mais en Europe et dans le monde. Qu'en pensez-vous?
Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que l'avenir de l'Europe se joue en Ukraine aujourd'hui. C'est-à-dire que soit la Russie est arrêtée, et elle est arrêtée par les Ukrainiens, et c'est une mission héroïque qui leur est confiée, soit elle n'est pas arrêtée, elle ne s'arrêtera pas là. Donc je pense qu'effectivement, les Ukrainiens sont en train de faire rempart à une menace quasi existentielle pour le reste de l'Europe.
Українці борються зараз за свою країну, звичайно, а також за суверенітет та культуру. Але також вони воюють за демократію, і демократію не лише в Україні, але у Європі. Що ви думаєте про це? Я абсолютно згоден з цим, і я переконаний, що українці зараз мають героїчну місію, адже вони стримують російську агресію. І правду кажучи, що український народ став щитом, який захищає від загрози увесь Захід.
Suite de notre conversation avec Serge Michel après une pause musicale.
Radio Cité Genève 92.2.
De retour sur Radio Cité Genève avec Serge Michel.
Dans ce contexte, on a vu d'abord une solidarité populaire incroyable. On a vu l'Europe, l'Union européenne se reconstruire, l'OTAN se reconstruire. Et maintenant, on voit des dissensions, spécialement dernièrement avec la position prise par Macron qu'il ne faut pas humilier la Russie. Qu'en pensez-vous ?
Bon, c'est difficile à dire. Je pense que il y a ceux qui espèrent qu'on peut discuter avec Poutine et ceux qui pensent qu'on ne peut pas discuter. Moi, je pense que ces dissensions, elles sont pas très profondes en vérité. Je pense que tout le monde est d'accord pour condamner cette guerre et cette invasion barbare. Ensuite, ben voilà, il y a différentes stratégies qui sont essayées. Je ne pense pas que ce soit dangereux pour le soutien à l'Ukraine. Je pense que la France, Macron peut dire ça et continuer d'envoyer du matériel de guerre à l'Ukraine qui lui permette de se défendre.
У цьому контексті ми зустрілися з надзвичайною підтримкою, але останнім часом почали з'являтися деякі розбіжності, особливо після позиції, яку зайняв Еммануель Макрон, сказавши, що не потрібно принижувати Росію. Що ви думаєте з цього приводу? Дуже важко відповісти, тому що завжди є люди, які думають, що з Путіним можна домовлятись, дискутувати. Є люди, які думають, що це не має жодного сенсу. Але всі згодні з тим, що потрібно засуджувати цю війну та варварське вторгнення. Однак, я думаю, що немає жодної небезпеки для підтримки України, адже Макрон може казати це і все одно продовжувати надсилати в Україну ресурси для ведення війни.
Timothy Snyder, l'historien de Yale University, a dit à Davos, dans une présentation, que les Français se trompaient quand ils tiraient les leçons de la Première Guerre mondiale en disant qu'il ne fallait pas humilier la Russie comme on a humilié l'Allemagne, alors qu'en fait, le parallèle serait plutôt la Deuxième Guerre mondiale, et de dire finalement on a donné des territoires de la Tchécoslovaquie à Hitler, ça ne l'a pas empêché d'essayer de prendre toute l'Europe. Pensez-vous qu'il y a un parallèle ?
C'est difficile les parallèles parce que voilà, mais je suis en effet assez d'accord avec Snyder. C'est plutôt la Deuxième Guerre mondiale à laquelle on assiste aujourd'hui. Et donc voilà.
Iriez-vous aussi loin que certains de dire que Poutine, c'est en fait l'Hitler d'aujourd'hui ?
Là encore, je pense que comparaison n'est pas raison. Hitler avait un projet génocidaire évident sur une population juive, tzigane et autres. Je ne pense pas que Poutine a un projet d'extermination de tous les Ukrainiens. Je pense qu'il veut une conquête de l'Ukraine et que du coup, il ne recule pas devant les morts civiles, mais il n'y a pas un projet forcément. Enfin, les soldats russes n'ont pas pour ordre de tuer tous les Ukrainiens qu'ils voient en face d'eux pour l'instant.
45 millions, c'est un peu beaucoup, effectivement, à éliminer.
Non, je sais bien, mais je veux dire, il n'y a pas un projet d'extermination des Ukrainiens en tant que tel. Par contre, il y a énormément de morts civiles dans ce conflit. Je pense que la Russie, le Kremlin, la Russie, aujourd'hui, met en danger la démocratie, l'équilibre mondial, la sécurité alimentaire, c'est effectivement une perturbation majeure de l'équilibre et de l'harmonie de la planète.
Тематіс Шнайдер, історик Єльського університету, у Давосі сказав, що французи помолились, коли заявили, що не потрібно принижувати Росію так, як принижували Німеччину після Другої світової. Однак ми зараз бачимо паралель саме з Другою світовою, коли віддали територію Чехословаччини для того, аби Гітлер перестав намагатись захопити Європу, але насправді це було дуже неефективно. Чи бачите ви паралель сьогодення? Важко відповісти, я згоден зі Шнайдером, адже зараз ми спостерігаємо справді події Другої світової. Також дехто стверджує, що Путін – це Гітлер сьогодення. Я вважаю, що це порівняння є неправильним, тому що у Гітлера був очевидний план геноциду меншин, таких як євреї, цигани тощо. У російських солдатів зараз немає наказу винищувати все мирне населення, і я не думаю, що Путін хоче винищити саме українців. Але правда в тому, що Кремль та Росія порушують світову рівновагу і гармонію.
Alors effectivement, Poutine ne peut sans doute pas éliminer 45 millions d'Ukrainiens, mais est-ce qu'un le génocide culturel, en fait, le fait qu'il prétende que l'Ukraine en tant que telle n'existe pas, que la culture, littérature ukrainienne n'existe pas, n'est-ce pas une forme de génocide ?
Non, je pense que c'est une forme d'impérialisme. C'est pas la même chose. Pour moi, la Russie a des visées impériales qui remontent à un certain temps, déjà au XVIIIe siècle, etc. Et pour moi, il y a dans cette conquête coloniale de la Russie vers le sud, il y a la volonté de nier la culture, évidemment, comme les puissances coloniales européennes ont nié les cultures des pays qu'ils ont conquis en Afrique ou en Asie. Donc il y a une négation de l'autre qui est évidente. J'appellerai pas ça génocidaire, mais j'appelle ça impérialisme et colonisation.
Очевидно, що Путін не має плану винищити 45 мільйонів українців, але має місце культурний геноцид, оскільки Кремль вдає вигляд, що України не існує, не існує української культури та літератури. Хіба це не геноцид? Я думаю, що це форма імперіалізму, не що інше. Росія повторює колоніальну політику європейських країн 18 століття.
Suite de notre conversation avec Serge Michel. Après une pause musicale.
Radio Cité Genève
92.2
92.2
De retour sur Radio Cité Genève avec Serge Michel.
Vous avez mentionné une famine qui va se présenter. Vous avez longtemps œuvré pour le monde en Afrique. On voit que l'Afrique, pour l'instant, semble plus alignée à la Russie, alors qu'en fait, c'est la Russie qui risque de créer la famine chez eux.
Je pense qu'il y a une certaine inconséquence dans cette attitude de certains pays africains, pas tous, hein, mais il y a effectivement un certain nombre de pays africains qui n'ont pas voté à l'Assemblée des Nations Unies contre la Russie, et qui sont plus animés par une sorte de ressentiment envers l'Occident, la France, leurs anciens colonisateurs, et qui trouvent que la Russie, finalement, est un pays intéressant, qui leur propose des milices armées, des armées privées, des choses comme ça. Pour moi, il y a une grande naïveté là-dedans. Je pense que les Africains seront victimes de cette guerre déclenchée par la Russie de façon immense. C'est-à-dire que, à la fois choisir un pays qui va s'effondrer. Pour moi, la Russie va s'effondrer, c'est évident. C'est une question de temps. Donc, de la part des Africains, de certains Africains, de se ranger aux côtés d'un pays qui va s'effondrer, c'est une erreur stratégique. Et d'autre part, il est évident que la crise alimentaire qui se profile, et peut-être la famine qui se profile, elle est causée par la Russie. Et ces pays-là vont souffrir les premiers.
Vous avez parlé de голод, так як довгий час ви працювали в Африці, і бачимо, що зараз Африка рівняється більше на Росію, в той час, як саме Росія створює ризик продовольчої кризи в африканських країнах. Я думаю, що є певні наслідки в такому відношенні африканських країн, звісно, не всіх, але є деякі, які не проголосували проти Росії в Асамблеї ООН, і вони знаходять Росію цікавою країною і навіть пропонують їй свою допомогу. Це дуже наївно, адже вони вибрали країну, яка спопалиться, це очевидно, це просто питання часу, і це була їхня стратегічна помилка. Але тільки Росія відповідальна за продовольчу кризу та можливий голод, від якого в першу чергу постраждають країни саме Африки.
Alors vous avez parlé de l'Afrique, mais il y a aussi ce sentiment que le monde non aligné ne s'aligne justement pas à l'Europe ou aux démocraties à cause des États-Unis. Certains vont jusqu'à dire qu'en fait, les Ukrainiens sont des marionnettes des États-Unis. Qu'en pensez-vous ?
C'est absurde. Je pense que les Ukrainiens sont les acteurs de leur propre histoire. Et quand on voit l'énergie, le courage qu'ils déploient pour résister à une armée en théorie beaucoup plus puissante que la leur, on comprend bien qu'ils sont les marionnettes de personne. C'est-à-dire que ce courage-là, on l'a pour soi-même, on ne l'a pas pour réaliser les desseins de quelqu'un d'autre. Mais bien sûr que... Alors, pour les États-Unis, en revanche, c'est vrai que cette guerre est une occasion de revenir dans le jeu. Ils se sont comportés de façon assez... irresponsables en Irak, en Afghanistan. Ils ont mené des guerres qui étaient pas forcément justes et qu'ils n'ont pas forcément menées bien. Donc ils ont laissé un chaos s'installer en Afghanistan sous leur contrôle et pareil en Irak. Et donc cette guerre-là, pour une fois, ils sont du bon côté, ils agissent bien, ils agissent vite. Ils sont les leaders, si on veut, du groupe de soutien à l'Ukraine, et tant mieux. Je veux dire, que les États-Unis puissent enfin montrer une action positive et importante, c'est quand même rassurant après leurs échecs partout ailleurs.
Ви говорили про Африку, але зараз є відчуття, що світ не рівняється на Європу в плані демократії через США. Кажуть, що українці є маріонетками Сполучених Штатів. Що думаєте ви? Я думаю, що це абсурд. Українці є акторами своєї власної історії, і вся сміливість, яку вони демонструють у супротиві, це тільки для них самих. Що стосується Штатів, для них ця війна – це можливість взяти реванш та повернутися у гру. Адже після війни в Іраку та Афганістані, коли Штати показали дуже безвідповідальну позицію, зараз вони швидко та добре реагують на все, що відбувається в Україні.
Nous arrivons à la fin de cette interview. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez rajouter?
Moi, j'aimerais juste souligner l'importance de soutenir les journalistes ukrainiens. Je pense que ce sont eux qui racontent le mieux le quotidien de la guerre. Ce sont eux qui raconteront la reconstruction quand elle pourra commencer. Enfin, elle a déjà commencé à certains endroits, mais voilà, ce sera quand même une chose massive sitôt quand les combats seront terminés, espérons-le bientôt. Et donc, ces journalistes, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de pouvoir travailler, ils ont besoin de pouvoir garder leur pratique du métier. Et je pense que c'est pour moi comme journaliste, c'est ça le voilà, ce sont le journalisme dans un pays comme ça, c'est un des piliers de la démocratie, c'est un des piliers de l'avenir de l'Ukraine. Et donc c'est importantissime pour moi de pouvoir maintenir la qualité du journalisme ukrainien tel que je l'ai connu depuis 2014.
Ми підходимо до завершення, і можливо, ви б хотіли щось ще додати. Я хочу підкреслити важливість підтримувати українських журналістів, адже саме вони, як ніхто інший, можуть найкраще відтворити та розповісти про усі буденні події, які відбуваються зараз. Для них необхідна фінансова допомога і можливість зберегти свою роботу. А для мене, як для журналіста, надзвичайно важливо зберегти в них ті якості, про які я вже говорив.
En fait, votre Geneva Solutions, et on va mettre le lien sur notre site de 92.2 FM, Radio Cité, vous faites toujours de la recherche de fonds, on peut contribuer à payer ces journalistes, comme vous dites.
Alors oui, on avait lancé un crowdfunding qui a très bien marché. Il y a quand même énormément de lecteurs suisses qui se sont mobilisés pour... On a récolté à peu près 55 000 francs avec ce crowdfunding. Mais en fait, il y a une fondation qui s'appelle la FIDI et qui est une fondation reconnue d'intérêt public qui soutient le projet aussi, qui n'a pas de fonds propres, mais qui par contre peut recevoir de l'argent et le reverse au projet et qui permet de défiscaliser les dons. Donc on a plusieurs donateurs privés qui se sont manifestés après le crowdfunding et qui, et vraiment c'est important. La question c'est de savoir combien de temps on peut tenir, c'est-à-dire que pour l'instant on a de quoi tenir jusqu'au mois de septembre à peu près, et comme la guerre malheureusement semble devoir durer, on aimerait pouvoir aussi continuer cette opération pour continuer de payer les journalistes ukrainiens.
Je vous remercie beaucoup d'être venu et pour le travail que vous faites et pour les journalistes et pour nous informer, nous, public suisse, parce qu'on doit se tenir informés et comprendre un peu les enjeux de cette guerre.
Il y a des sujets que les journalistes ukrainiens arrivent à couvrir et que ne couvre pas la presse internationale. Je pense par exemple à tout ce qui se passe dans les zones occupées par la Russie. On a des journalistes sur place qui, avec de grands risques personnels, racontent ce qui se passe, notamment l'enrôlement de civils à Donetsk et à Luhansk qui n'ont pas envie de se battre, mais qui sont enrôlés de force et qui sont envoyés sur le front par l'armée russe. Je pense notamment aussi aux enlèvements à Kherson. Il y a beaucoup de civils qui sont enlevés et qui disparaissent dans un système de camps de filtration russe, etc. Et ça, on a ces journalistes-là sont capables de raconter des histoires auxquelles n'ont pas accès les journalistes internationaux. Et je pense que c'est une des justifications majeures de ce projet.
Merci beaucoup.
Отже, ваш проєкт Geneva Solutions, ми вставимо посилання на сайті радіо. Ви продовжуєте шукати фонди для того, щоб оплачувати роботу журналістів. Так, на сьогоднішній момент нам вдалося зібрати 55 тисяч франків. Є фондація FIDI, яка підтримує наш проєкт. Є багато приватних донаторів, які долучаються. Ми не знаємо, як довго це буде продовжуватись, і наразі ми готові працювати до вересня. Але так як, на жаль, війна продовжується, потрібно знаходити інші ресурси для того, аби ми мали можливість продовжувати нашу роботу. Ми дякуємо вам за те, що ви знайшли час завітати до нас. Дякуємо за всю роботу, яку ви робите, за те, що продовжуєте інформувати нас, населення Швейцарії. Насправді, українські журналісти показують те, до чого немає доступу у іноземних журналістів. Вони беруться на себе власний ризик, розповідають про те, що відбувається в окупованих територіях, про супротив місцевого населення у Луганську та Донецьку. Розповідають про те, що зникає цивільне населення у Херсоні у процесі фільтрації. І я вважаю, що ця інформація, яку ми отримуємо від них, це найголовніше підтвердження про те, що наш проєкт справді дієвий та корисний.
Радіо Сіті Женев.
92.2.
92.2.
Passons maintenant à ce qui va se passer ce week-end à Genève et en Suisse. Ce samedi aura lieu de 14h30 à 16h30 à la Maison des Associations, rue des Savoises 15 à Genève, une rencontre avec des artistes et des journalistes venus d'Ukraine. Nous invitons tout le monde à nous rejoindre et les informations se trouvent sur le site de radiocité.ch. L'exposition Supernova Art of Ukraine, qui fait découvrir l'art visuel ukrainien au public suisse, sera présentée au Basel Art Center du 9 au 14 juin. Il comprend trois projets, Unbreakable Wall, Bohemian Art Corner, édition baloise, et Hands for Mother. Le vernissage de l'exposition aura lieu le lundi 13 juin à 18h au Basel Art Center.
C'était Christine Avrilichine, avocate et historienne, et Serge Michel, fondateur de Heidi News et rédacteur en chef adjoint du Temps, fondateur de Geneva Solution, qui a créé la plateforme Ukrainian Stories. Vous étiez sur 92.2 FM dans l'émission de Radio Cité Genève pour l'Ukraine, qui sera diffusée vendredi à 14h, samedi à 9h et lundi à 14h. Au revoir à tous.
Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй стороні. Тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу.